Je réponds tout de suite à deux petites questions qui sont relatives au cours de ce matin, et c'est pour ça que j'y réponds tout de suite. Pourriez-vous justifier pourquoi vous avez choisi de partir l'acte libre et non pas de la libération ? La libération est en vue de nous libérer. Nous libérer, c'est-à-dire nous remettre dans un état de liberté. C'est en vue de cela. Donc, on présuppose connaître ce que c'est que la liberté. La libération est un acte. Je crois qu'on ne peut pas dire au contraire. C'est un acte en vue de la libération, en vue de libérer quelqu'un. Donc, vous voyez, l'intention de la libération est d'être tout entière tendue vers remettre quelqu'un dans un état de liberté. On libère, on veut libérer un prisonnier. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, puisqu'il y a beaucoup de prisonniers. Libérer, libération. Donc, c'est présupposé connu, c'est pas direct. C'est une action en vue d'eux. C'est pour ça que je pars de l'acte libre, qui est plus pur, qui est plus simple. Libération est plus complexe. Dans la libération, la liberté finalise. L'état d'être libre finalise. Donc, est présupposé connu. Vous voyez ? Toujours analyser qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second. Vous partez de l'acte libre, mais qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'un acte libre ? Mon expérience. La philosophie présuppose l'homme. La philosophie n'est pas première par rapport à l'homme. L'homme vit. Et il a vécu beaucoup avant de philosopher. Heureusement pour lui. Primum vivere, secundo philosophare. Ça reste toujours vrai. Et pour quelqu'un où philosophare est premier, il part de l'idée. C'est fichu. De temps en temps, prendre un bon beefsteak. C'est nécessaire, quoi. C'est absolument nécessaire. Primum vivere, ou un bon verre de vin. Primum vivere. Puis ensuite, vous faites la philosophie du vin. Comment voulez-vous faire la philosophie du vin sans avoir jamais bu un verre de vin ? C'est impossible, quoi. Il faut avoir vu plus des vins divers, là, à ce moment-là, vous pouvez faire la philosophie du vin. Comme vous pouvez faire la philosophie de l'eau. La sœur l'eau, après avoir vu des eaux, pas des eaux fédéralement pures, mais des eaux de source. Et puisque l'Aignée, c'est fédéralement pur. Alors vous voyez, c'est très bien, mais c'est l'eau de source. Alors par exemple, exactement comme pour le blanc. Donc l'homme est antérieur à la philosophie. Qu'est-ce qui est premier dans la vie de l'homme ? L'expérience. Quand vous êtes très fatigué, vous n'expérimentez plus. L'humanité d'aujourd'hui, j'ai très peur quelquefois, devient incapable d'expérience. Elle vit tellement vite. Quand vous êtes lancé à une certaine vitesse, vous ne pouvez plus expérimenter autre chose que la vitesse qui vous angoisse. Quand vous connaissez le pays, ça n'a pas d'importance. C'est très curieux. Vous n'avez qu'à réfléchir. Quand on fait tous les jours le même trajet pour se rendre à son travail, on a calculé le temps exact qu'il fallait. Hein, et on s'y précipite à toute vitesse. On ne voit plus rien du tout. On expérimente la rapidité avec laquelle on fait ce trajet. Le trajet lui-même, non. Et si on rencontre quelqu'un, oh, je t'en prie, reviens ce soir, j'ai plus le temps maintenant. Oui, on n'est pas disponible à une expérience. C'est pas si commode que ça d'expérimenter, d'être en état d'expérience, de regarder quelque chose de nouveau, une nouvelle tête. Voilà, des nouvelles têtes, c'est quand même intéressant. Il y a derrière quelqu'un. J'ai pas encore connu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toute espèce de gens, c'est comme ça. Si on les interroge, vraiment, pas uniquement au point de vue psychologique, mais humainement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un homme. Est-ce qu'il est libre? On va voir. Bon, alors, je pars de l'acte libre parce que j'ai conscience dans ma vie. Évidemment, si vous n'avez pas conscience d'acte libre, je dirais, attendez pour faire la philosophie de la liberté. Il faut avoir dans sa vie posé quelques actes libres. On pose des actes libres, alors. Vous voyez, j'anticipe un tout petit peu ici. Je suis bien obligé, puisque c'est une question critique qui m'est posée là. C'est une question critique, alors je justifie. On va voir qu'il y a des actes libres très différents. Dans ma vie morale, dans ma vie d'homme, je pose des actes libres comme quand je commence à aimer. C'est très curieux. Ce que tous les philosophes n'ont pas dit. Dans ma vie, si je suis un peu artiste, on l'est tous un peu, au moins nos heures, puis on peut goûter l'art, on voit très bien, il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on rejette. Et quand on est saisi profondément par une aspiration, on sait qu'on peut poser cet acte ou ne pas le poser. Acte libre. Autre expérience, on a tous l'expérience de l'orgueil. Personne d'entre vous peut dire « j'ai jamais commis un acte orgueilleux dans ma vie ». Aucun acte vaniteux. Nous avons tous l'expérience du péché. Tous. C'est l'expérience la plus commune. Tous. Est-ce que l'expérience du péché n'est pas une expérience de la liberté? Vous pouvez partir de l'orgueil. On le fera, vous inquiétez pas. Morale sans péché, Hénard. C'est parce qu'il veut tout expliquer par la psychologie. Mes psychologues freudiens m'ont toujours dit pas de liberté, pas de liberté, pas de liberté. Là, je m'amusais pour les prendre au bon moment en les faisant sortir de leur freudisme. Et quand vous êtes venu me chercher, c'est un ami qui vous a dit, c'est un ami commun. Il y avait un médecin commun qui connaissait psychanalyste et qui me connaissait. Il m'a dit, je crois qu'il y a possibilité de faire un vrai dialogue. Vous êtes venu me voir. Vous l'avez fait forcer. Il était libre. Vous avez quand même choisi. Ah oui, mais on était conditionné par un tas de choses. Oui, mais c'est curieux quand même que j'ai été conditionné par autre chose, mais pourquoi l'avez-vous fait à ce moment-là? Une fois discuté avec eux, ils disaient qu'on était toujours conditionné, il n'y avait pas d'objet. On regardait en fonction de ce qu'on faisait. Puis c'était en Suisse, au Mont Pèlerin. Tout d'un coup, il y a eu un petit animal merveilleux qui est arrivé au-dessus de notre tête. C'était dans la forêt. Tous on s'est arrêtés. C'est extraordinaire. C'est en plein milieu des discussions, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien d'objectif. C'est vrai pour Freud, c'est vrai. C'est tout arrêté. Alors, au bout de 5 minutes qu'on avait regardé ce petit écureuil étonnant qui s'approchait, n'ayez pas peur des Freudiens. Parce qu'il n'avait pas de complexe. Il était encore instinctif. Il y avait une espèce d'instinct extraordinaire. C'est dommage qu'on n'avait pas une petite amende. Je crois qu'il serait venu jusque-là. bout de 5 minutes, je dis, qu'est-ce que vous avez regardé? Mais mon père, mais c'est un écureuil. Ah tiens, vous avez vu un écureuil? Et moi aussi. Oh, vous étiez conditionné. Juste à l'inverse de moi, nous avions deux positions diamétralement opposées. Ça prouve que quand même, il y a quelque chose de naturel. L'intelligence, elle est au-dessus de ce conditionnement. Grâce à l'écureuil, j'ai commencé à la faire une petite explication de ce que c'était que la connaissance. Elle dit, ah, c'est ça l'objet. C'est ça la détermination. J'ai dit, oui, c'est ça. C'est de voir un écureuil. Tant que vous êtes capable de voir un écureuil, vous n'êtes pas perdu. Tant que vous êtes capable de voir un écureuil, le jour où vous serez incapable de voir un écureuil, ah, évidemment, quelqu'un de très très angoissé n'aurait peut-être pas vu l'écureuil. C'est possible. Ça devient très dangereux, vous voyez. Vous êtes pris par des hallucinations. Vous voyez, je comprends très bien. Mais il y a... Là, ces psychanalystes n'étaient pas très angoissés, moi non plus, on discutait ferme, mais la discussion ferme permet quand même de chercher la vérité. Et l'écureuil, ça arrêtait tout. Bon, alors vous voyez, c'est la même chose pour la liberté. Il y a des actes libres qu'on expérimente sans avoir fait de philosophie. Ce sont les philosophes. Les psychanalystes qui vous disent il n'y a pas d'acte libre. Et le gros bon sens, ma vie habituelle, quand même je sais que certains moments j'ai choisi, il y a d'autres moments où je n'ai pas choisi. Ça c'est sûr. Mais dans notre vie, ben quand même eu un acte libre dans ma vie. C'est suffisant. Faire la philosophie de la liberté. Je crois quand même qu'un être normal, je dis un être normal, pas malade, parce que justement c'est le propre de la maladie, c'est de ne plus émerger sans scaphandrier. Quand on n'émerge plus, plus d'actes libres, ça devient instinctif. On a tous vu des malades, terribles, quand on les aime, c'est terrible. Il n'y a plus d'actes libres. Tout de suite, quand on est en face de quelqu'un, mais oui, on sent qu'il est libre. Ah, ce que vous êtes libre. Et ça, c'est merveilleux. La liberté. Ça se fait, la liberté. Hein. Chacun d'entre nous, la dose de liberté que nous avons, on l'a conquise. On conquiert la liberté. Et le jour où on descend le fleuve, comme tout le monde, à la manière de Peggy, et même les cadavres sont pas libres. Ils ont un poids déterminé au moment de leur mort, ils sont plus libres. Tandis qu'on acquiert sa liberté. C'est très vrai. La liberté doit être de plus en plus grande. Jusqu'au jour où peut-être, à cause d'un gagatisme précoce, ma liberté diminuera. Autrement, on acquiert la liberté. Si on est un homme conscient de ce qu'on fait, si on est un homme finalisé, on va voir ça progressivement. Mais c'est très important de comprendre ça. Je ne suis pas né libre. Ça, c'est bien évident. Je suis né. On ne m'a pas demandé ma permission. Et certains, ça les gêne beaucoup. Moi, ça ne me gêne pas tellement, parce que je me dis, il y a beaucoup d'autres choses. On ne m'a pas demandé la permission. Beaucoup d'autres choses. On ne m'a pas demandé la permission qu'il y ait cette terre, qu'il y ait d'autres choses dans la vie. C'est tout le temps comme ça. On voit que le domaine de la liberté, il est restreint, il est limité. Mais j'acquiers la liberté. Vous voyez, quand on a découvert ce que c'est qu'un acte libre, on voit la richesse d'un acte libre. Et alors on désire que cet acte libre progresse et grandisse. Et on voit des domaines où ce qu'on on l'a laissé de côté. Vous voyez, quand on ne fait pas de politique, par exemple, quand on ne fait pas de politique, donc on est très mal informé, on dépend des informations, on n'est pas libre, on est très peu libre, très peu, on est terriblement conditionné. Vous voyez, conditionné et liberté, ça lutte constamment l'un contre l'autre. Le conditionnement, c'est quelque chose qui s'impose à moi. L'aliénation, c'est un conditionnement qui vient limiter. Donc je pars de l'acte libre. Il y a une expérience. Vous voyez, c'est comme l'esprit. On a une expérience qui a quelque chose de spirituel en nous. Capacité d'aimer, capacité de connaître. Si on n'a pas cette expérience-là, évidemment c'est très difficile. La philosophie présuppose expérience. Ça présuppose expérience. Et je ne peux faire la philosophie que de mes expériences. Et de l'expérience de mes amis. Ça, c'est le propre de l'amitié. Puisque l'ami, c'est un autre moi-même. Et l'expérience de l'ami me sert. Mais c'est la seule. Les autres expériences, c'est toujours un peu étranger. Vous voyez, l'expérience d'un ennemi, je ne peux pas m'appuyer dessus. L'expérience d'un ami, oui. Un ami me dit qu'il a fait ce voyage magnifique, étonnant. Mais dans la mesure même où il me dit « Ah, ça éveille en moi quelque chose. » Si ce n'était pas un ami, peut-être qu'il raconte des blagues. Alors je pars de l'acte libre. J'en verrai progressivement. Parce que c'est vrai, plus, et comprenez bien, la philosophie est pour l'homme et non pas l'homme pour la philosophie. C'est pour ça que l'homme est antérieur à la philosophie. Et l'homme est après la philosophie. J'ai une conscience très nette. Et je crois que c'est ça, la vraie philosophie. Elle est pour faire que l'homme devienne un sage. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. C'est pour une certaine sagesse. Mais c'est l'homme qui est un sage. La philosophie est au service de l'homme. Je me souviens, c'est un de mes amis qui est diplomate, et il me racontait la manière dont, il y a quelques années, il y a eu Stockholm, un congrès, il y a de plus en plus de congrès, droit d'être gauche, un congrès sur la pollution. C'était encore du temps de Mao. Alors il me disait qu'il y avait les maoïstes qui étaient venus en uniforme, évidemment, pour qu'on les reconnaisse bien. Et pour qu'ils se reconnaissent. Alors, ils étaient là, une voix, je crois qu'ils étaient cinq. Alors, au début, ils ont demandé la parole tout de suite, les premiers. Ils ont dit, très bien de parler de la pollution, mais première question, la science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Pas bête comme question. Personne n'a répondu. Même le représentant du Vatican. Personne n'a osé répondre. Allez, vous comprenez, hein, parce que ça va loin. L'homme est-il pour la science ou la science est-elle pour l'homme? On comprend très bien, hein, la pollution, conséquence de certaines choses, on va tout de suite à la cause. Et paraît-il qu'ils ont répété ça trois fois, au milieu des plus grandes discussions. Nous revenons sur la même question, personne n'a répondu. Parce que tant que vous n'aurez pas répondu là-dessus, il y a quelque chose où on ne sera pas d'accord ensemble. Vous allez trouver des petites recettes. Nous voudrions savoir ça. Est-ce que l'humanité d'aujourd'hui est-elle conduite par la science ou est-ce que l'humanité se sert de la science? Ah, ils n'ont pas été jusque-là. Hein. Ils n'ont pas dit est-ce que la science est un idole? Le progrès de la science. Bon, le progrès de la science, tout s'incline. Ben, alors, vous voyez, c'est ça que je me pose la question. Il y a des actes qui sont antérieures à la philosophie. Puisque la philosophie est pour l'homme. Le philosophe sait qu'il est là pour aider à être plus homme. Et le philosophe essaie d'être homme. Je fais de la philosophie, mais je sais quand je fais de la philosophie. Quand je mange ma soupe et que j'écoute la lecture, n'est-ce pas, sur l'encre de Chine, est-ce que je fais de la philosophie ? Si je faisais de la philosophie, je ne rirais pas. Mais je ris. Je dis, c'est merveilleux. C'est étonnant. C'est bien ça. L'instrument. Il n'est pas philosophe. Mais il a expérimenté ça. Il sait ce que c'est. Vous voyez, vous pouvez décrire. Quand vous décrivez, c'est ce qu'il fait. Il décrit avec une analyse très précise. Très fine, il décrit l'instrument, l'industrie et la fabrication. Petite distinction là, le philosophe demanderait est-ce que c'est juste. Et tout de suite, la réaction du philosophe. Est-ce que c'est juste l'industrie et la fabrication ? Est-ce que toute industrie n'implique pas une fabrication ? Puis-je séparer industrie et fabrication ? Oui, c'est là où, constamment dans les expériences, on peut distinguer le philosophe, c'est-à-dire est-ce que c'est juste ? Est-ce que je peux séparer acte libre et libération ? L'homme décrit. Il décrit ses expériences. C'est rempli d'expériences, hein, cette lecture. C'est pour ça que c'est si riche. Et c'est pour ça qu'à partir de là, la philosophie, hein, tout de suite. Mais c'est pas de la philosophie. C'est pas un livre de philosophie, vous comprenez ? Trois cours de philosophie, ou deux cours de philosophie par jour, plus des discussions, c'est suffisant. Si on vous donnait, on aurait dû prendre un livre de Lévinas comme lecture au réfectoire. Peut-être faire l'expérience, si vous voulez, pour le dernier jour. Ou Merleau-Ponty, Lettre et Néant. De bonnes pages. Peut-être qu'on mangerait mieux. Parce qu'on ne ferait que cela. Et d'un autre côté, on écoute et puis on mange. Alors ça distrait. Mais c'est pas ma vie d'être distrait quand on mange. Si c'est pas trop. Vous voyez, la vie est antérieure à la philosophie. Et le philosophe respecte la vie. Et nos expériences, c'est notre vie. C'est notre vie. Nous vivons. Et dans notre vie, nous avons tous fait cette expérience d'acte. Ah, je ne suis pas libre. Ah, je fais ça, mais je ne suis pas libre. Ah, je vous avertis, je ne suis pas libre. J'aime pas de faire quelque chose, je ne suis pas libre. Tu vois, moi, je suis comme ça. J'ai horreur. Et je le dis. Je le fais parce que vous me le demandez, mais je ne suis pas libre du tout. Et profondément, je ne sais même pas si je dois le faire. Mais situation limite. Situation limite. Il y a des situations limites. Il y a Spers qui a mis, j'allais dire, cette expression très en lumière et qui est très juste. Il y a eu un article d'un philosophe de Rome, de l'université de Rome, je ne sais plus laquelle, ça importe peu, il y a quelques années, qui a fait un article « L'homme, aujourd'hui, n'est-il pas en situation limite ?» Très joli comme chose. Alors qu'est-ce que c'est que la situation limite ? Eh bien la situation limite, c'est quand vous avez mauvaise conscience. Vous êtes coincé. Situation limite. La situation normale, mais on dit oui, on dit non, ça se fait spontanément, on réfléchit un instant. Tu viens te promener avec moi ? Mais oui. Est-ce que c'est un acte libre ? C'est évident, je t'ai dit oui. Sois pas scrupuleux par rapport à l'acte libre. Parce qu'au bout d'un certain temps, tu verras qu'il n'y a plus d'acte libre. Vous voyez, c'est spontané. Il y a une vie spontanée, il y a une vie directe. C'est l'expérience. Et dans notre expérience, nous faisons le partage d'actes libres et d'actes non libres. Alors, maintenant, nous allons énumérer les actes libres. Puisque je pars de l'acte libre, de mes expérience d'acte libre. Je pourrais me poser à la fin, on se posera à la fin. Si j'oublie, je me rappellerai. Qu'est-ce que c'est que la situation limite ? C'est très intéressant et très important aujourd'hui. Un acte libre. Je mettrai, en commençant par la fable de La Fontaine, le loup et le chien. On aurait dû mettre comme livre pour lire. Topfer, c'est un peu les fables de La Fontaine, vous voyez. C'est très difficile de lire avec toi les fables de La Fontaine. 5 minutes. Il y aurait 5 minutes de silence entre deux. Et c'est très important, parce qu'on a appris les fables de La Fontaine quand on était gosse. On l'apprenait. C'est un exercice. Mais lire les fables de La Fontaine dans un divertissement, on voit que c'est plein d'intelligence. Le loup et le chien. Bon, alors, voyons l'acte libre du loup. On est tous loups à certains moments de notre vie. C'est l'acte libre de l'artiste. L'artiste, normalement, c'est un être qui garde jalousement sa liberté. Ah, farouchement. Il a une espèce d'épiderme d'artiste qui fait que vous, liberté avant tout. Chez tous, vous voyez ça. Même chez les artisans. Donc, il y a un acte libre de l'artiste ou des artistes. On va voir ça. J'en prendrai plusieurs exprès. Il n'y a pas qu'un seul acte. Mais l'artiste, on ne peut pas nier. Si on essaie d'étudier ce qui caractérise l'artiste, on dira que l'artiste a un sens extraordinaire de sa liberté d'artiste. Ça, c'est jamais commode, hein. Un artiste en vie commune, oh là 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 là, jamais commode. C'est toujours très difficile. Toujours très difficile. Si on veut respecter l'artiste, si on ne veut pas tout le temps le brimer. L'acte libre, donc je mets ça numéro 1, 2, parce que je crois que c'est là où c'est le plus manifeste. C'est le plus manifeste. Plus facile à saisir dans toute sa force. L'acte libre de l'ami. L'ami à l'égard de son ami. C'est qu'il l'aime librement. Tant qu'il est ami. C'est un acte très particulier. Pas du tout l'artiste. Très différent. Très différent. Et un acte libre de l'homme prudent. Vous allez dire à l'homme prudent qui n'est pas libre. Il dira alors quoi ça sert ma prudence? Un homme qui n'est plus prudent, qui n'a plus, auquel on dit qu'il n'y a plus de prudence, c'est un robot. Téléguidé. Donc il est téléguidé. Avec la prudence. Et les limites, les passions. Ah, les passions. Les passions m'aident à comprendre ce que c'est que la liberté. Parce qu'un être passionné, en tant qu'il est passionné, c'est un cheval au galop. Impossible de l'arrêter. Plus de liberté. C'est l'opposition. Donc, 3. Ça, je crois que tout le monde peut faire cette expérience. Si on a fait l'expérience de l'amitié. Si on a fait l'expérience, quand même, d'une certaine prudence. 4. L'acte libre dans l'obéissance. Ah, ça. C'est un acte libre très particulier. Parce que très facilement, vous direz, celui qui obéit n'est pas libre. Il obéit. Et de temps en temps, vous le dites, je fais ça pour t'obéir, mais je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Je le fais pour obéir. Mais très facilement. Très facilement. pour un freudien, c'est très difficile, hein, de voir l'actualité de l'obéissance, dans l'obéissance. Pour eux, il y a presque une opposition entre l'obéissance et la liberté. C'est pour ça que je le donne. Parce que dans le monde aujourd'hui, c'est important. C'est important de comprendre que l'obéissance augmente ma liberté. Augmente mon champ de liberté. C'est pas commode à comprendre. Sans doute parce que il y a très peu de véritables actes d'obéissance. Je crois. Il y a des quantités d'esclaves dans notre monde d'aujourd'hui. Je dis pas que l'esclave obéit. Hein. L'esclave, en tant qu'esclave, téléguidé. L'acte libre dans la politique. Ah. L'acte libre de l'homme politique. Il y a deux aspects. Hein. Celui qui vote, l'élection. Ah, l'élection. Et on dit l'élection. Et c'est là où le choix est moins fort. Et on parle élection. C'est extraordinaire. Élection, ça veut dire choix. Il y a combien de ceux qui votent qui font un acte libre? Vous voyez, il faudrait, avant le bulletin de vote, il faudrait un appareil qui détecte si c'est un acte libre. Si c'est pas un acte libre, c'est pas une élection, c'est pas un choix. Téléguidé. Et alors, on devrait le supprimer. Hein. Pauvre suffrage universel. Oh là 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 là. C'est extraordinaire. On assiste à des choses qui sont curieuses à regarder au plan philosophique. Donc, l'élection. Je le mets exprès parce que c'est intéressant quand même. C'est intéressant de voir la désagrégation d'un acte libre. La pourriture d'un acte libre. L'élection. Les gens sont téléguidés. C'est téléguidé de multiples manières. Par la télévision, ils se sont laissés prendre. Et puis, l'élu. Est-ce que l'élu accepte librement d'être élu? Hein? S'il n'accepte pas librement d'être élu, mais c'est pas l'élection qui l'a causé. Curieux, hein. Poser la question au président de la République. Élu. Il est l'élu. Il a posé un acte libre. Ah, sixièmement. Vous voyez, il faut faire l'analyse de tout ça. Autrement, je ne sais pas ce que c'est que la liberté. L'acte libre religieux. La liberté religieuse, c'est tout à fait à l'ordre du jour. L'acte libre et religieux. Est-ce que l'acte religieux est un acte libre? Si l'acte religieux est un acte libre, il y a donc la liberté religieuse. Hein? Il dit que la liberté n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acte libre. Il n'y a pas d'acte religieux libre. C'est ennuyeux. Donc tous les hommes religieux sont des automates. Sont téléguidés. L'acte libre religieux. Hein? Il y en a très peu, c'est possible ça. C'est le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Hein? Merveilleux. Je crois que c'est, pour moi, c'est là où Jésus fait une psychanalyse, homme alors, qui devrait être la méthode psychanalytique. Pas freudienne. Pas du tout. Elle est religieuse. Tout à fait autre chose. C'est diamétralement opposé à Freud. C'est extraordinaire, ça. Et c'est là où on devrait tout reprendre. Ça nous est donné. Il remet cette femme, au bout d'un instant, devant ce qui a été l'objection, le mur terrible. Là où on doit avoir la plus grande certitude, on a mis un doute. À partir de là, tout a été acte libre religieux. Je réserve pour le soir l'acte libre du croyant. Mais c'est intéressant quand même à regarder. Mais c'est pour le soir. Hein. On fera l'acte libre du croyant. Parce que ça joue, c'est évident. Voilà ce qui me semble, point de vue philosophique. 6. C'est pas pour avoir le chiffre de la bête, mais c'est 6. Il y en a peut-être un 7e qu'on dénigrerait facilement. Parce que dans l'acte libre de l'artiste, chaque fois qu'on a l'acte libre, on voit tout de suite les limites. Il n'y a pas d'acte libre absolu. Ça n'existe pas. Et c'est là, vous voyez, l'erreur fondamentale de vouloir faire de la liberté un absolu. Là, on le voit tout de suite. Hein. Et d'où c'est venu ? À partir du moment où on est entré dans une philosophie qui a oublié de regarder l'acte libre. On a voulu faire de la liberté un absolu. C'est un absolu formel pour la pensée, mais ce n'est pas un absolu de l'homme. C'est l'homme qui est libre. Mais l'homme n'est pas libre radicalement. Vous êtes né en dehors de votre liberté. Donc votre naissance est viciée radicalement. Non, elle n'est pas viciée. Si vous faites de la liberté un absolu, votre naissance est viciée dès le point de départ. Vous êtes né dans un monde qui était avant vous. Vous êtes né dans une famille qui existait avant vous. On voit bien l'acte libre. Si je parle de l'acte libre, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Parce que l'absolu, pour moi, ce n'est pas la liberté. C'est autre chose. C'est une condition, une qualité extrêmement intéressante pour que l'acte humain, soit vraiment humain, il faut qu'il soit libre. Que l'acte humain soit vraiment acte humain, il faut qu'il soit libre. Mais vous avez quand même l'expérience d'un acte humain. Vous savez, les anciens faisaient la distinction entre l'acte humain et l'acte de l'homme. Ce que prend toujours saint Thomas. Saint Thomas prend comme exemple le fricare barbam. Parce qu'au Moyen-Âge, on portait beaucoup la barbe. Le fricare barbam. Tous les actes instinctifs sont des actes de l'homme, mais pas un acte humain. Oui, les actes instinctifs. Il y a des quantités d'actes instinctifs. Chacun d'entre nous, il y a une dose d'actes instinctifs. Heureusement, du reste. Vous avez une démarche particulière. Elle n'est pas humaine, elle est de vous. C'est vrai, c'est un mécanisme particulier. Et quand on met une troisième patte, il y a encore une démarche différente. Oui, quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui est tombé par terre, on lui donne un troisième pied, une canne. Une canne qu'on arrive à aimer. Vous voyez ? Et quand on arrive à l'aimer, elle devient humaine. J'ai intégré la canne dans ma démarche humaine. Alors qu'au point de départ, pas du tout, c'est artificiel. Chose qui m'est imposée. Je regarde toujours quand un frère s'est foulé le pied qu'on lui met. Et regardez le début quand il commence à marcher. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a des tas de choses qui se dévoilent. Parce qu'il y a quelque chose de violent qui intervient. Sa démarche habituelle, c'était comme ça. Et regardez, chacun qui s'est foulé le pied et qui prend une canne, la prend différemment. Il se dévoile quelque chose à ce moment-là. Parce que la violence, quelque chose extrinsèque. Donc, l'acte libre tout de suite se distingue d'un acte qui n'est pas humain, mais qui est de l'homme. Quand vous rêvez, est-ce que c'est humain ? Non. Un acte de l'homme. Quand vous dormez, ah oui, je reviens ce matin, la libération de ce qui est instinctif et ce qui est humain. On libère de l'instinct pour revenir sur un terrain humain. Et mon terrain humain est plus ou moins grand, parce que dans la journée, hein, il y a pas mal de choses qui ne sont plus des actes humains. Quand vous vous précipitez sur quelque chose que vous aimez, est-ce que c'est un acte humain ou un acte de l'homme ? L'instinct. L'instinct n'est pas libre. Et c'est pour ça que tous les hommes qui suivent leur instinct ne sont pas libres. L'instinct est déterminé, absolument. Il y a des zones de détermination en nous. Alors, on pourrait mettre une certaine expérience, une septième expérience. Hein. Alors, qui serait une interrogation ? Y a-t-il des opérations libres dans le monde purement physique ? Serait peut-être même, voyez, cette septième serait peut-être même avant. Y a-t-il des opérations libres dans le monde physique ? Alors vous allez dire, oui, c'est bien la septième, parce qu'il faut quand même savoir ce que c'est que l'acte libre pour me poser la question. Mais il faut se poser la question. Y a-t-il des actes humains, des actes libres dans le monde purement physique ? Vous voyez, quand je dis acte humain libre, je peux me poser la question, est-ce que je peux dire des actes non humains libres ? Septième interrogation. Y a-t-il des actes libres dans le monde des vivants, non spirituels ? Est-ce qu'un singe ? Est-ce qu'un singe pose des actes libres ? Tous les actes du singe ne sont pas libres. Ou au contraire, tous les actes du singe ne sont pas libres. Ils sont instinctifs. Ce que je crois. Je crois que seul l'acte même ça, septièmement, serait une interrogation. Ce sera de comprendre à quel moment y a-t-il émergence de l'acte libre. Rappelez-vous, septièmement, rappelez-vous le premier moment où vous avez posé un acte libre. J'ai posé la question au psychanalyste. Ça m'intéressait. Alors, regardez. Difficile à savoir à quel moment j'ai posé un acte libre. On peut se rappeler, vous voyez ? La première fois où on a dit non à notre mère, à notre père, et on s'est mis en colère, on a reçu une bonne gifle. Alors on se rappelle de la gifle. Et par le fait même, on se rappelle du non. On peut se rappeler de ça. J'étais un peu colérique. Parce que vous voyez, on a beaucoup plus de souvenirs des actes colériques que des actes de concupiscence qui sont beaucoup plus enfouis. Les actes colériques sont beaucoup plus proches de la conscience quand on a dit non. Vous voyez, c'est curieux parce que c'est souvent à partir du non qu'on commence à comprendre ce que c'est que l'acte libre. Non. On verra, du reste. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de comprendre le premier génétique. Le premier dans l'ordre génétique. C'est lorsque j'ai dit non. En disant non, je m'affirme. Par la négation, je m'affirme. Par la négation. Par la négation, je découvre l'acte libre. pose cette question, hein, c'est intéressant. Le philosophe se pose des questions. Il se pose des questions. Vous voyez, tandis que le premier, selon de nature, une distinction extrêmement importante dans toute recherche philosophique, il y a le premier génétique et le premier selon de perfection. Il est bien évident que ce n'est pas la négation qui est première, mais elle est première génétiquement. L'acte libre est positif. C'est un acte positif, l'acte libre. Mais, ordinairement, j'ai conscience de ce que c'est qu'un acte libre par ma négation. J'ai nié. J'ai dit non. Et par la négation, j'ai découvert. J'ai posé un acte libre. L'acte de désobéissance. Non, je ne veux pas faire ça. J'ai fait une rupture. Vous voyez, la rupture me libère. Ah ! Vous voyez, Sartre, la néantisation, c'est la rupture. Pour parler un langage simple. La néantisation et la rupture. Je romps avec tout le monde. Je néantise tout le monde. Je vous néantise. Je vous néantise. Mais si j'avais le pouvoir de vous néantiser, je resterais seul. De temps en temps, quand on est dans des fortes colères, on a envie de néantiser. Oui, la rupture. Et donc, condition sine qua non de la liberté. C'est pas si bête. Condition sine qua non, la rupture. C'est par la négation que se manifeste, je dis, par la négation, que se manifeste l'acte libre. Dans l'ordre génétique, et comme Sartre ne fait pas de distinction entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection, et qu'il ne fait pas de distinction entre la manifestation et le réel, je comprends très bien, la néantisation, condition sine qua non de l'acte libre. Et comme il n'y a pas de causalité, qu'il n'y a que des conditions sine qua non, le fondement de l'acte libre, c'est l'anéantisation. Et de là à dire, la liberté, c'est l'anéantisation. Vous voyez, la petite étincelle qui reste. Sartre a été séduit par la négation. Je crois que c'est le philosophe qui a parlé avec le plus intelligent de la négation. Dans L'être et le néant, les pages les plus intéressantes de Sartre, c'est quand il parle de la négation. Ça, alors là, on sent qu'il l'a vécu. La néant, la négation. Il a dit non. Je ne connais pas, je l'ai pas connu personnellement. Alors je ne peux pas dire que c'était ce qui primait. Mais tout ce que je sais de lui, par des amis, je vois très bien que c'est la négation, la rupture. Sa nette rupture. Vous vous souvenez quand Sartre a voulu justifier à propos de Simone de Beauvoir. Il dit, oh, je ne la connais pas. Oui, pour être libre. Il s'est dit, oh, je la connais, je l'aime. Je suis libre. Il y avait une rupture radicale à l'égard de l'amour. Oui, ça, premier, dans l'ordre génétique. Dans l'ordre génétique, c'est très vrai que notre conscience s'éveille surtout par la négation. Ça, c'est très juste. Et donc, la manifestation. Vous voyez, pour faire une belle statue de la liberté, il faudrait faire une statue de la néantisation. Montrer la rupture. Ça manifeste. Et montrer ceux qui viennent par derrière sont libres. Bon, je reviens. L'acte libre de l'artiste, maintenant. Ceci, c'était les petits préambules nécessaires pour chercher ce que c'est que l'acte libre et analyser ce que c'est que l'œuvre libre de l'artiste. L'acte de l'artiste est un acte humain. C'est un acte volontaire. Et puis, c'est un acte libre. Alors, je prends première situation, parce qu'il y en a beaucoup, la situation la plus facile à comprendre. Un artiste, sait bien que l'inspiration, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas sur commande. C'est pas en prenant un pinceau que l'inspiration vient. C'est le pinceau qui est inspiré, c'est pas l'artiste, c'est le pinceau. C'est pas ça comme ça du tout. Et le poète sait très bien. Lisez Rilke, qui dit ça admirablement. Quand il parle d'être un jeune artiste, un jeune poète, il dit ça admirablement. Il sait très bien que l'inspiration, c'est pas commode. Il faut travailler. Et l'inspiration vient. Parce que si vous dites, moi je ne travaille que quand je suis inspiré, vous ne travaillerez jamais. Et l'inspiration ne viendra jamais. L'inspiration vient à partir du travail. Un artiste sait qu'il peut se mettre à travailler. Pas très inspiré, vague. Et si toute la matinée il travaille comme ça, on lui dira, alors ça va, ouf, matin, rien fichu du tout. Et il a travaillé tout le temps. Mais rien fichu du tout. Aucune valeur, rien. Puis tout d'un coup, ah oui, oh oui, oui, il y a quelque chose. Chose qui vient, un éclair. Oui. Pour lui, la qualité du travail proviendra dans la mesure même où il y a cette inspiration. Il ne cherchera pas à savoir exactement ce que c'est. Hein. Mais il saura que tout d'un coup. Là-dessus vient quelqu'un qui dit, oh, ce que vous faites, c'est admirable. Oh, faites ça pour moi. Voyez, quelqu'un, un intrigant. Un intrigant. Oh, faites ça pour moi, je vous en supplie. Ah, dis donc, je suis libre. Je suis libre de le faire pour vous. Bon. Moi, je ne travaille pas sous commande. Je ne travaille pas sur commande. Voyez, la négation. L'artiste est libre de vendre ses œuvres ou de ne pas les vendre. L'artiste est libre de travailler sur commande ou pas travailler sur commande. Évidemment, si l'artiste doit gagner sa croûte, il acceptera les commandes, mais il saura très bien que c'est en tant qu'homme pour gagner sa croûte. Ce n'est pas en tant qu'artiste. Et il fait très bien la distinction. Picasso, avec tous les avantages et inconvénients de Picasso, faisait ça admirablement comme distinction. Il le savait très bien. Ce qu'il faisait comme artiste, et qu'il se faisait pour les bons bourgeois. Puisque c'était signé Picasso, ça avait beaucoup de valeur. Pour lui, c'était de la bêtise. Oui, l'artiste fait cette distinction très nette. Il est libre. Et sa liberté vient d'où ? C'est ça qui m'intéresse. Sa liberté vient d'où ? Quand un artiste dit « Je suis libre après tout », il se fâche quelquefois quand le client insiste trop, quand le client va à tout prix acheter quelque chose qu'il garde pour lui. Il se fâche. C'est mon œuvre. Oui, c'est ce que dit d'une autre manière Nietzsche. Comprends ce que c'est que l'artiste. Quand Nietzsche dit, si Dieu existe, il est créateur. Or, je suis créateur. Donc Dieu n'existe pas. Voyez, c'est très intéressant ça. Parce que ça dévoile toute la liberté de l'artiste. Comme un absolu. Je crois que le seul absolu de la liberté, on le découvre chez l'artiste. Dans un artiste qui dit non. Je suis créateur de mon œuvre. Il y a eu un procès il y a quelques années en Amérique. On m'a raconté ça. Je n'ai pas plus de renseignements. Je crois que c'est vrai. Parce que la personne qui me l'a raconté connaissait très bien la chose. Personne n'avait acheté à un jeune artiste un tableau. Puis l'artiste a évolué. 20 ans après, la personne revient chez l'artiste, ou plus exactement, elle l'invite. Ça, je voudrais bien reprendre contact avec vous. Alors l'artiste, alors, évidemment, elle lui montre. Vous voyez, il y a 20 ans, je vous ai acheté ce tableau. Ah ! Oh non, c'est pas de moi. Oui, c'est de vous. Ah non, c'est plus du tout de moi. Plus du tout, ça correspond plus du tout à ce que je ferais maintenant. Ah non, non, non. Ah non, 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 je reprends ça. Je reprends ça, ça m'appartient après tout. Après tout, je voulais acheter. Je voulais acheter. Alors, est-ce que ça appartient à celui qui a versé l'argent ou à l'artiste qui l'a fait? Il y a eu un procès. C'est très joli, moi je trouve ça admirable. Pour voir où est la liberté de l'artiste. Quand on vend une œuvre, chaque fois l'artiste pleure. Sauf si c'est un ami. Autrement, c'est terrible. Quelque chose qui part. On ne le verra plus. Ou on le verra dans des mains. On le verra dans un salon effrayant. Juste qu'il ne valait pas. Sans goût du tout. Et le contexte a joué. Vous voyez, il y a un certain absolu qui n'est pas un absolu total. Mais on peut le garder. Ah ben, je ne veux pas vendre mes œuvres. Les amis diront, mais oui, vendez, c'est bien, faites-vous connaître par là. Mais on s'en fiche. La liberté de l'artiste, la création, il crée quelque chose. C'est là où naît la liberté. Alors vous voyez, c'est très intéressant là aussi à comprendre ce que c'est que la liberté de l'artiste. L'artiste ne choisit pas. C'est qu'il est libre d'exécuter ou de pas exécuter. Il est libre de vendre ou de pas vendre. Mais il n'est pas de choisir. Il est mené. Il est mené par quelque chose de plus fort que lui, de plus puissant que lui. Il est mené pour faire quelque chose d'unique. C'est sa création. Et le dira. Alors vous voyez, l'acte de l'artiste repose sur quoi? Sur une inspiration. Je veux dire, la liberté de l'artiste repose sur quoi? Sur l'inspiration. On reviendra demain là-dessus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.